europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
On le dit régulièrement à l'agonie et pourtant, à chaque fois, dans les moments périlleux que connaît l'Union européenne, il sait se ressaisir. Depuis le 22 janvier 1963 et la signature du traité de l'Élysée qui scelle la réconciliation franco-allemande, la France et l'Allemagne forment un étrange couple qui évolue au gré des dirigeants entre entente et déception. Le temps de l'émoi qu'ont connu Charles de Gaulle et Konrad Adenauer est passé depuis longtemps, mais les mariages de raison accouchent parfois de grandes résolutions. Il en est ainsi de l'initiative Merkel-Macron, un emprunt européen de 500 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne après la pandémie du coronavirus. Autrement dit, en lançant l'idée d'une dette européenne et non plus exclusivement nationale, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont initié une petite révolution qui remet la solidarité au premier plan des constructions européennes. Et une initiative qui a servi de tremplin au plan de la Commission présenté mercredi par sa présidente Ursula von der Leyen. Un plan, lui, doté de 750 milliards d'euros. Bref, le retour du couple franco-allemand bouscule et booste l'Union européenne. Je vous présente les amitiés qui nous ont rejoints, toujours au téléphone, comme il se doit depuis le début de la crise du coronavirus. Mihaela Wiegel, guten Tag, guten Abend.
Guten Tag, bonjour.
Vous êtes la correspondante à Paris du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sandra Parti, bonjour, guten Tag aussi.
Allô,
vous êtes la directrice du bureau de Bruxelles de l'Institut des Deutschen Wirtschaft. Est-ce qu'on peut le traduire par l'Institut de la recherche de l'économie allemande? L'ai-je bien traduit?
Oui, je pense que c'est la bonne traduction, oui.
Merci en tout cas d'être en ligne de Bruxelles. Christian Lecken, bonjour.
Bonjour, Gruscott.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris et un habitué de l'émission. Et enfin, Pascal Thibault, qui n'est point besoin de présenter, correspondant de RFI en Allemagne, évidemment en ligne de Berlin. Bonjour, Pascal. Et comme
bonjour,
chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction du Courrier International ce dimanche avec Antoine Moutteau. Christian Lecken, on va faire un peu d'histoire et d'histoire conjugale. 57 ans de vie commune, le couple franco-allemand est entre les noces d'or 50 ans et les noces de diamant 60 ans. D'un couple qui a tenu si longtemps, parfois, souvent même avec des chamailleries qui font d'ailleurs le délice des chroniqueurs politiques. Finalement, lorsque la maison commune est en grand danger, il finit toujours par trouver la force de se ressaisir. Et ce n'est pas la première fois, Christian Lecken, chaque binôme, pour ne prendre que deux exemples, François Mitterrand et Helmut Kohl avec la réunification, ou Nicolas Sarkozy et déjà Angela Merkel avec la crise de l'euro, ont connu des moments délicats.
Tout à fait. Si j'avais à définir le couple franco-allemand dans le contexte de la construction européenne, je dirais que c'est d'abord un système pacifique de gestion de conflits, c'est-à-dire que on est en mesure de mettre sur la table des positions qui ne sont pas toujours les mêmes. Il est très fréquent que les positions de départ soient différentes, pour ne pas dire opposées, mais il y a des mécanismes de confiance qui font que on est en mesure, sans trop de formalisme diplomatique, d'arriver à une sorte de compromis. Donc ça, c'est la première dimension. Et ça, cette dimension, je pense qu'elle n'a jamais cessé d'exister. La deuxième dimension, c'est plutôt force de proposition. Alors ça, ça marchait très très bien lorsque la communauté était à 12, à 15. C'est devenu plus difficile avec l'élargissement. Ça se traduisait par ces fameuses initiatives franco-allemandes, les lettres franco-allemandes, etc. Et là, on a effectivement l'impression, avec cette initiative sur la relance de l'après-Covid, que l'on retrouve cette forme d'initiative européenne, c'est-à-dire l'idée que la France et l'Allemagne mettent sur la table une position qui doit être un point de départ moteur, suivi par le reste de l'Union européenne.
Mais Mihaela Wiegel, cette expression couple franco-allemand, elle est très franco-française en Allemagne. On utilise un autre terme. On n'utilise en tout cas jamais le terme couple franco-allemand.
Oui, effectivement, on y met probablement un peu moins de sentiments et on parle plus volontiers de moteur ou juste de partenariat, de coopération, de relation. Ça, c'est le maximum de sentiments qu'on y met, mais je crois que c'est assez significatif sur la perception de la relation franco-allemande, qui est avant tout une relation de travail. Et je crois, et je ne veux pas doucher tous les espoirs qui sont nés avec ce rapprochement très louable, mais je crois vraiment cette nouvelle étape est vue de beaucoup d'Allemands, et on le voit, Angela Merkel a pu réunir autour d'elle beaucoup de ténors qui étaient auparavant plutôt critiques de sa démarche européenne. C'est une étape où l'Allemagne défend surtout aussi son intérêt, et notamment son intérêt économique.
Alors, on va évidemment y venir. En tout cas, avec cette crise du coronavirus et la crise économique que nous connaissons et qui n'en est qu'à ses débuts, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont très vite compris la gravité de la situation. Angela Merkel, lundi dernier, lors d'une visioconférence de presse avec son homologue français.
Nous traversons la crise la plus importante de notre histoire dans l'Union européenne. Bien sûr, il y a des forces qui sont là et qui ne veulent pas d'une Union européenne forte. On le sait, à l'extérieur de l'Union européenne. Il y a des gens qui ne veulent pas de cette cohésion européenne. Ils utilisent les médias sociaux, des moyens numériques pour nous faire du tort. Et puis, il y a des gens aussi qui ne veulent pas d'une Europe renforcée, qui veulent des États nationaux forts. Et une crise comme celle que nous traversons, c'est bien sûr un moment de lutte. Bien sûr que dans les démocraties, il y a des théories du complot, il y a des manifestations, il y a des extrêmes droites, des extrêmes gauches, des haines qui ressurgissent, de l'antisémitisme. Mais nous sommes convaincus l'un et l'autre que l'Europe doit agir ensemble et que les États-nations n'ont aucune chance de s'en sortir seuls. L'Allemagne ne s'en tirera bien que si l'Union européenne se porte bien.
L'Allemagne ne s'en sortira bien que si l'Union européenne se porte bien. On va revenir sur ces propos d'Angela Merkel qui sont évidemment essentiels dans quelques instants, juste après avoir écouté Emmanuel Macron qui lui détaille le point principal de cette initiative franco-allemande.
Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, Allemagne-France, aux 27 pays membres, c'est d'une part d'aller lever une dette commune sur les marchés et d'utiliser ces 500 milliards d'euros pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique et les régions les plus impactées par cette crise. C'est une étape majeure et nous espérons que la Commission européenne, dans quelques jours, portera cette proposition et qu'elle sera ensuite suivie par l'ensemble de nos partenaires. C'est ce qui nous semble indispensable pour compléter les initiatives qui ont été d'ores et déjà prises et continueront de l'être au niveau national. Je crois que c'est une transformation très profonde et c'est ce dont l'Union européenne et le marché unique ont besoin pour garder leur cohérence, c'est ce dont la zone euro a besoin pour garder son unité.
Une dette commune, le mot tabou a été prononcé, une ligne rouge a été franchie. Pascal Thibault, dette commune entre les 27 pays de l'Union européenne à l'issue d'un emprunt commun, c'est une idée que les Allemands avaient toujours rejetée jusqu'à lundi dernier.
Oui, effectivement, il y a depuis très longtemps, depuis la crise de la zone euro, en tout cas, surtout dans la dernière décennie, une opposition assez résolue ici, qui d'ailleurs transcende le clivage droite-gauche, contre une mutualisation des dettes et contre l'instauration de ce qu'on a appelé des eurobonds et de ce qui, ces dernières semaines, a fait parler de soi sous le nom de corona-bonds, c'est-à-dire des titres qui seraient mis en commun par les États membres de l'Union européenne. On voit que là, il y a donc une évolution de la position allemande ces dernières semaines pour différents facteurs. On l'a évoqué déjà, le fait que l'Allemagne agit aussi ou a pris ce tournant parce que cela répond aussi à ses propres intérêts. Angela Merkel a répété, et ça ne date pas d'il dernière semaine, que si l'Europe se porte bien, c'est aussi l'Allemagne qui en profitera. Et puis aussi, on s'est rendu compte que si tous les pays étaient touchés par la pandémie, à des degrés divers bien sûr, il y a quand même une asymétrie dans les conséquences, avec le risque que l'Allemagne à la fin soit encore encore le gagnant de cette crise au niveau économique et que cela renforce les distorsions et des conséquences pour les débouchés économiques de l'Allemagne et renforce encore plus les risques de clivage au sein de cette Union européenne.
Sandra Parti, qu'est-ce qui a fait changer Angela Merkel, pourtant arc-boutée sur cette idée, un emprunt commun jamais, c'est vraiment l'économie, la nécessité d'être un peu plus généreux pour que le système continue de fonctionner. Alors, ces emprunts, on a parlé effectivement de rebonds il y a quelques temps, de coronabonds plus récemment. Qu'est-ce qui a fait changer Angela Merkel?
Donc je pense que c'est vraiment, comme vous avez déjà dit, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'Union européenne d'avoir cette dette européenne et c'est vraiment aussi un tournant de la position allemande. Et à mon avis, c'est vraiment des raisons économiques, mais aussi politiques, stratégiques, globales. Donc au niveau économique, je pense que c'est le marché commun d'intérieur qui est important pour l'Allemagne. Ce sont des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de valeur qui sont importantes pour l'économie allemande, pour les entreprises en Allemagne et qui ont vraiment des relations avec des autres pays membres. Et ça, c'est important de les garder. C'est aussi important pour l'Allemagne de garder des frontières ouvertes. Et c'est ça, à mon avis, ce sont les raisons économiques qui sont les plus importants là, mais aussi au niveau politique stratégique, je trouve que c'est vraiment une décision ou peut-être un changement de la position de Mme Merkel d'avoir vraiment un soutien pour la solidarité européenne et aussi adresser peut-être potentiellement une influence de la Chine et de la Russie dans le sud et de l'est de l'Union européenne et de vraiment voir que l'Europe doit réagir et agir ensemble pour adresser ses influences et pour se positionner aussi vis-à-vis des États-Unis et de la Chine.
Michael Abigail, si je traduis bien avec le décodeur pragmatique de la pensée merkelienne, est-ce que cela veut dire, pour parler un langage très compréhensible, nous sommes les premiers exportateurs européens, si nous voulons continuer à vendre par exemple des Mercedes, des BMW ou des Audi, il faut que nos partenaires européens qui sont nos principaux clients puissent le faire et donc que cela passe par une aide ponctuelle qui prend la forme de cet emprunt que l'Union européenne va lancer. Est-ce que c'est ça le fond de la pensée merkelienne?
Oui, alors je pense que c'est un des aspects majeurs et à cela s'ajoute bien entendu l'aspect politique et même culturel, comme l'a dit Markus Söder, notre ministre-président de la Bavière, c'est-à-dire que l'Allemagne a tout intérêt à ce que l'Europe sort renforcée de cette pandémie, puisque cette pandémie, en quelque sorte, change les règles du jeu et des rapports de force sur le plan international. Mais je ne pense pas que ça soit déjà une adhésion à l'idée même d'une dette commune qui s'éternise à des eurobonds.
Une dette perpétuelle.
Là. Voilà.
Christian Lequen, cette dette commune qui est une nouvelle marque de la solidarité européenne, tout de même, Emmanuel Macron l'a réclamée depuis son élection en 2017, notamment lors de son discours de la Sorbonne de septembre 2017, sans succès jusqu'alors. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps? Est-ce qu'il a, Emmanuel Macron a eu raison trop tôt?
Non, mais je crois que si la proposition a attendu si longtemps, c'est tout simplement parce que elle n'était pas possible sans l'accord de l'Allemagne. Il fallait rallier l'Allemagne à l'idée. Il fallait que l'Allemagne en soit convaincue, sinon cette dette commune n'aurait jamais pu être mise sur la table. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres résistances. Il y aura des résistances de la part des pays du Nord qu'on appelle les pays frugaux dans notre langue française. Mais voilà, on ne savait pas comment l'Allemagne allait politiquement accepter ou pas. Et il se trouve que voilà, la décision politique, ça a été de l'accepter, bien sûr, avec des conditions, hein, puisqu'il y aura une validation collective des financements et il faudra que les États qui en bénéficient apportent un certain nombre de garanties.
Pascal Thibault, il y a eu des oppositions à cette initiative qu'a pris Angela Merkel avec Emmanuel Macron, ou est-ce que finalement c'est assez bien passé au sein de la classe politique allemande et puis auprès des Allemands, bien évidemment?
les oppositions sont finalement relativement modestes, notamment là où peut-être on pouvait s'y attendre le plus, c'est-à-dire parmi le camp conservateur. On oublie parfois en France et à l'étranger en général que les marges de manœuvre sur ce dossier comme sur d'autres de la chancelière sont peut-être plus limitées que celles d'un président français. En raison, on l'a vu lors des différents projets de réforme de la zone euro dans les dernières années, il y avait à chaque vote nouveau au Bundestag une déperdition de voix au sein du camp conservateur. Et là, on a vu finalement un soutien très résolu et très rapide de la direction du groupe parlementaire conservateur, associant la CDU et la CSU au Bundestag. On a vu aussi un soutien, même s'il n'était pas forcément extrêmement enthousiaste, mais malgré tout un soutien de Markus Söder, le ministre-président de la Bavière et le président de la CSU. Il reste des résistances d'une certaine partie de la CDU proche des milieux économiques, mais encore une fois, elles sont moins importantes que ce qu'aurait pu y penser. Évidemment, au sein du SPD, on est favorable à ce plan. Chez les Verts, dans l'opposition aussi, il y a plus de bémols chez les libéraux, mais ils sont dans l'opposition et n'ont pas un poids politique très important. On a vu aussi une évolution également même des experts qui, traditionnellement, pour certains, sont proches des idées libérales et qui ont accepté ce plan, par exemple l'Institut IFO de Munich ou d'autres, et même dans les milieux d'affaires, on a vu le patron de Porsche plaider pour des Eurobonds, ce qui pouvait constituer une surprise par rapport à la tradition allemande. Et en ce qui concerne les Allemands en général, on a vu dans un sondage récent qu'il y avait une majorité d'entre eux, de 51%, qui soutenaient cette démarche. Et aussi, il y a un avantage, actuel d'Angela Merkel, c'est que grâce au sursaut supplémentaire, sa popularité n'a jamais été faible, dont elle a bénéficié grâce à la conduite de la politique anti-coronavirus, en quelque sorte, eh bien, elle bénéficie d'une base de popularité qui, sans doute, facilite les choses pour elle par rapport à ses concitoyens.
L'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, initié par le traité de l'Élysée de 1963, promeut des jeunes ambassadeurs franco-allemands. Ce sont évidemment des militants de l'amitié franco-allemande. Et j'ai demandé à l'un d'entre eux ce qu'il a pensé de cette initiative franco-allemande, Merkel Macron, qui a initié le plan de la Commission, non pas de 500, mais de 750 milliards d'euros. Nous allons bien sûr en parler dans un instant. Mais en attendant, je vous propose d'écouter ce jeune ambassadeur franco-allemand.
Bonjour, je m'appelle Soufiane Alouche et je suis jeune ambassadeur franco-allemand. J'ai trouvé que la déclaration franco-allemande était très juste. Et je veux souligner le courage d'Angela Merkel et l'espérance du président Macron. Beaucoup des propositions que les chefs d'État ont faites, nous, les jeunes ambassadeurs de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, les avions déjà demandées. Par exemple, de construire une industrie pharmaceutique européenne. C'est d'ailleurs l'objet d'une tribune qu'on a publiée dans l'Obs. L'allemand est la première langue étrangère que j'ai apprise, mais tout de suite après, j'ai fait du latin et du grec ancien. Et je dois dire que ce qui unit culturellement la France, l'Allemagne et les autres nations européennes entre elles, ce sont les cultures nées en Italie. Rome, mais aussi la Renaissance, dont nous sommes les héritiers. Je ne vois pas le couple franco-allemand sans l'Italie. La déclaration franco-allemande est respectueuse de tout cela. Nous devons la soutenir. En ce qui me concerne, j'essaye de la promouvoir chez les jeunes ambassadeurs de l'OFAGE.
Comme le dit Soufiane Alouche, une initiative qui a tout de suite été saluée par l'Italie et d'une manière générale par les pays du Sud les plus touchés par la pandémie. Et pour ce qui est de l'Italie qui s'est sentie abandonnée par l'Europe et les Européens, du moins dans les premiers temps de la crise. Christian Lecan, est-ce que c'est le début de quelque chose de nouveau, le fait que cette initiative franco-allemande, eh bien, elle a été intuitivement, inconsciemment coordonnée avec les pays du Sud et les pays de l'Est européens?
Alors, je voudrais pas mettre trop de romantisme, si vous voulez, dans cette affaire. Je crois qu'on a prononcé tout à l'heure le mot de pragmatisme, de langage des intérêts, et je pense que c'est d'abord comme cela que l'ensemble des États qui ont accepté, qui vont bénéficier aussi de ce plan de relance, se positionnent. Je crois vraiment que du côté de l'Allemagne, il y a cette idée de ne pas créer une crise générale de la zone euro qui serait au détriment de l'économie allemande. Il y a aussi l'idée que cette fois-ci, les pays qui pourraient être touchés sont des pays, avec tout le respect que j'ai pour la Grèce, d'un point de vue économique, qui ont beaucoup plus d'importance, l'Italie, la France, l'Espagne. Je veux dire, si ces pays sont touchés économiquement, là, vous avez une vraie répercussion pour la zone euro, hein, dans son ensemble. Et puis, pour les pays du Sud, je pense à l'Italie, c'est aussi cette idée que l'Europe doit nous aider à surmonter les conséquences économiques, en sachant que ces pays ont été très, très touchés par le Covid. Donc, tant mieux si ça a une conséquence politique positive sur la notion de solidarité, etc. Mais je crois quand même que l'approche de l'ensemble des acteurs est une approche très très basée sur les intérêts.
Alors la commission d'Ursula von der Leyen a présenté mercredi donc un plan plus détaillé et ambitieux de 750 milliards d'euros, 500 milliards sous forme de subventions et 250 milliards sous forme de prêts, qui s'ajoutent déjà aux 540 milliards d'euros débloqués très rapidement après le début de la crise pour que les États puissent faire face à l'immédiat. Mihail Leviegel, moi je suis quand même tenté de vous demander, est-ce qu'on vit un moment historique, une révolution européenne ?
Je pense effectivement on vit un moment historique. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir parce qu'il est quand même dû à une terrible pandémie, mais effectivement, je crois, et dans le petit passage, la citation d'Angela Merkel, on l'a bien montré, l'Allemagne a conscience que ce n'est pas une crise qu'on puisse gérer avec une approche moralisateur comme c'était encore le cas lors de la crise des dettes et notamment de la crise grecque. Donc, on voit bien que cette pandémie, elle a ça de différent, que tout le monde est frappé et de façon arbitraire, des pays en plus de victimes que d'autres et qu'il n'y a pas de culpabilité, un terme qui joue en Allemagne un grand rôle. Le mot même de dette est linguistiquement chargé de l'idée de culpabilité. Et donc je crois que le moment, il est historique parce que l'Allemagne, et c'est une première depuis la fin de la guerre, prend un petit peu le rôle de leader en Europe et de se dire, finalement, à la fin de la guerre, on a eu le plan Marshall, c'était les États-Unis d'Amérique qui ont aidé l'Europe à se relever. Cette fois-ci, c'est l'Allemagne avec la France qui doivent être garants de cette solidarité. Et ça, effectivement, c'est un moment historique.
Sandra Partey, les institutions ont été relativement réactives, en tout cas beaucoup plus que lors de la crise de 2008-2010, avec une cohérence avec les grands objectifs de la Commission européenne, c'est-à-dire faciliter le Green Deal et la transition énergétique, la recherche, appuyer le numérique européen, avec en plus un volet sanitaire et de santé. C'est quand même une nouveauté dans l'approche européenne et c'est une vraie cohérence entre la réaction à la crise et ce qui a fait les grandes propositions de la Commission Ursula von der Leyen.
Oui, donc c'était vraiment la proposition franco-allemande. Je trouve que c'était la fondation pour la proposition de la Commission européenne et c'est aussi, donc on le voit aussi au niveau des propositions accélérer les transitions écologiques et numériques qui est proposée par le couple franco-allemand et aussi par la Commission, le pacte vert ou le Green Deal, c'est très important. Et il faut aussi voir qu'au niveau technicalité là, de la proposition de la Commission et aussi au niveau de ce qui est accepté par l'Allemagne, c'est vraiment le fonds qui est prévu. Cet argent n'est pas un transfert dans les budgets nationaux, mais c'est l'argent de l'Union européenne pour des projets de relance dans les États membres. Donc c'est vraiment pour des projets qui vont, on espère, augmenter le pouvoir économique de l'Union européenne en total.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, le retour du couple franco-allemand bouscule l'Union européenne. Nous sommes avec Mihaela Wiegel, correspondante à Paris du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, avec Sandra Parti, directrice du bureau de Bruxelles de l'Institut des Deutschen Wirtschaft, avec Christian Lequen, professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris, et avec Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne. Il est en ligne de Berlin. Aujourd'hui, ce plan, globalement, il est approuvé par 23 pays sur 27, mais contesté par 4 pays dits les frugaux, qu'à cette même antenne, Enrico Letta, la semaine dernière, l'ancien Premier ministre italien, appelait les radins. Ces 4 pays, ce sont la Suède, le Danemark, l'Autriche et les Pays-Bas. Ils refusent l'idée d'une aide sous forme d'une subvention aux pays les plus touchés par la crise. Et pour mieux comprendre leur point de vue, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Antoine Moutot, vous êtes le correspondant de Courrier International aux Pays-Bas et l'hebdomadaire Elsevier relate assez bien l'état d'esprit néerlandais.
Les 4 raisonnables doivent bloquer le cadeau de Merkel et Macron à l'Europe du Sud. C'est le titre d'un récent édito de l'hebdomadaire conservateur Elsevier qui soutient ouvertement la position des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Suède et du Danemark. Pour le correspondant du journal néerlandais à Bruxelles, ces 4 pays souvent qualifiés de frugaux ne font en fait rien d'autre que faire preuve de bon sens. Leur résistance au plan de relance européen des dirigeants allemands et français est plus que légitime, juge-t-il. Il en veut d'abord pour preuve l'opposition d'une partie des Allemands à cette aide de 500 milliards d'euros, une opposition représentée notamment par le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung et qui compte désespérément sur les Pays-Bas et ses quelques alliés pour peser face à leur propre chancelière Angela Merkel et au couple franco-allemand. Pour le journal Elsevier, débloquer de cette manière 500 milliards d'euros est tout sauf logique. Il faudrait au contraire, écrit-il, que chaque pays effectue d'abord une demande chiffrée de ses besoins réels avant de la soumettre à la validation de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et ça, pour éviter un transfert d'argent nord-sud injustifié et disproportionné. L'auteur de l'article donne comme exemple le grand raz de marée de 1953. À l'époque, raconte-t-il, de nombreuses Françaises avaient envoyé, en guise d'aide, leur soutien-gorge aux Néerlandaises touchées par la catastrophe, mais les soutiens-gorges étaient souvent trop petits, dit-il, puisque les poitrines des Néerlandaises seraient plus grandes. Puis surtout, pour Elsevier, le principe de solidarité européenne brandi par certains serait complètement biaisé. D'abord, il se baserait sur une perception tronquée de l'état des finances de chaque pays. Seule la dette publique serait prise en compte, alors que selon le journal, si l'on y additionne la dette privée, eh bien les Pays-Bas et le Danemark sont plus endettés que l'Italie. Et aussi, les habitants des pays du Sud auraient plus de patrimoine et partiraient en moyenne à la retraite 6 à 7 ans plus tôt que ceux des pays du Nord. Dans ce contexte, on ne peut pas parler de solidarité, conclut le journal.
Merci Antoine Moutot, Courrier International Hebdo et courrierinternational.com, le site. Angela Merkel, dans cet article de Elsevier, l'hebdomadaire néerlandais, il y avait, semble-t-il, une petite hésitation à admettre ce plan de la part de votre journal, le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Qu'en est-il, Mihaela Wiegel?
En fait, justement, merci de me faire réagir parce que je trouve que c'est un peu réducteur de prendre un seul article. Ce qui est remarquable, et je crois que Pascal Thibault ne me contredira pas, c'est que effectivement, beaucoup des éditorialistes dans les pages économiques de mon journal étaient très sceptiques. Mais aujourd'hui, les commentaires ont vraiment évolué et je crois que c'est intéressant de constater cette évolution. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui disent, bien sûr, il faut rester attentif aux détails du plan, mais globalement, c'est une bonne mesure. Et globalement, il ne s'agit pas aujourd'hui de commencer à faire des petits calculs de comptables, mais d'aider et de montrer la solidarité.
Alors, vous n'avez pas compris que l'hebdomadaire néerlandais Elsevier a pris le papier qui l'intéressait dans votre journal, le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Christian Lequen, alors, on a compris, il y a eu cette initiative franco-allemande, Merkel-Macron, il y a eu le lancement d'un plan par Ursula von der Leyen, le plan de la Commission européenne. C'est le début d'un long processus. C'est pas encore pour tout à fait demain, ce plan de relance de l'Union européenne.
Non, et je ne suis pas sûr du tout qu'on arrive d'ailleurs à un compromis lors de la réunion prochaine à Bruxelles des États membres avec la Commission. À mon avis, ça sera une première étape où on va se laisser avec un certain nombre de questions non résolues, puis il faudra revenir. Mais ça, bon, c'est le principe même de la construction construction européenne. Alors évidemment, il va falloir donner des garanties aussi aux quatre pays, Autriche, Pays-Bas, Danemark et Suède. Le fait que l'Allemagne et la France soient d'accord pour un compromis, mais pas à n'importe quelle condition du côté des Allemands, ça aide. Mais je crois que oui, il y aura d'âpres discussions. Mais après tout, ça se passe toujours comme ça dans la construction européenne.
Alors ces quatre pays, les frugaux ou les radins, comme le disait Enrico Letta la semaine dernière, donc la Suède, le Danemark, l'Autriche et les Pays-Bas, ça représente environ 35 millions d'habitants sur les 450 millions après le départ des Britanniques. Quelle est leur marge de manœuvre? Est-ce que les frugaux, Christian Lequel, mais je poserai aussi la question à Michael Avigel, est-ce qu'ils vont prendre le risque d'un échec?
Moi, je ne crois pas. Je pense, et on voit bien du côté néerlandais déjà des assouplissements. Ce qui va en revanche, disons, être important pour eux, c'est d'avoir d'excellentes garanties sur l'utilisation des fonds. Mais je ne crois pas qu'ils puissent mener, si vous voulez, la proposition de la Commission vraiment à l'échec. Je crois que le fait que la France et l'Allemagne soient aussi avancées rend les choses difficiles pour eux, d'autant plus que si vous prenez ces pays, ils ont besoin aussi de la France et de l'Allemagne dans une autre négociation qui est la négociation sur le Brexit. Ils ne veulent pas d'un accord commercial avec la Grande-Bretagne à n'importe quelle condition, car ils sont très très concernés par les échanges commerciaux et la question de l'intégrité du marché intérieur.
Alors, Michael Avigel, est-ce que les frugaux peuvent prendre le risque de faire capoter ce plan de relance européen?
Non, je ne le pense pas non plus. Je trouve d'ailleurs un des titres qu'on a trouvé très bien, on les appelle pas les quatre frugaux, mais les quatre isolés. Et c'est bien l'impression qu'ils donnent. D'ailleurs, leur proposition était très vague, leur contre-proposition, soi-disant, sans chiffrage, sans vraiment, à part leur critique qui était connue, aucun détail qui aurait pu permettre d'avoir une nouvelle base de négociation. Et donc j'ai l'impression que après la présentation du plan par Ursula von der Leyen, notamment le chancelier autrichien a déjà mis de l'eau dans son vin. Il a parlé d'une bonne base, donc ça ne sonnait plus comme une confrontation très, très combative. Et je pense que Sébastien Kurz, ce chancelier autrichien, a vraiment un problème à partir du moment où il s'isole du consensus de la droite en Allemagne. Ça devient très, très difficile pour lui, à lui seul, incarner ce positionnement. D'où l'importance du nouveau positionnement du ministre-président de la Bavière, qui aide énormément Angela Merkel et qui se place en quelque sorte dans le rôle d'un possible successeur à la chancellerie. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, en Allemagne, nous sommes, malgré tous les rumeurs sur un possible nouveau mandat d'Angela Merkel, qui est venu un peu comme une surprise, on est quand même à proximité d'une élection majeure. Et donc, je crois que dans les négociations qui vont être difficiles, ce facteur joue un grand rôle aussi, c'est-à-dire Angela Merkel, elle a en quelque sorte rien à perdre, donc elle n'est pas obligée de reculer.
Et puis, juste pour le cas autrichien, il faut rappeler que le chancelier Kurz est en coalition avec les Verts et que les Verts sont évidemment plutôt favorables à ce plan de relance européen. Pascal Thibault, Angela Merkel va devoir prendre son bâton de pèlerin et convaincre un petit peu ses frugaux, parce que la Suède, le Danemark, l'Autriche et les Pays-Bas, ce sont des pays très proches de l'Allemagne.
Oui, effectivement, et c'est vrai que le fait que ce soit Angela Merkel qui devra pour l'essentiel gérer ces négociations, cette semaine la chancelière a estimé qu'on n'arriverait pas à un accord lors du sommet européen de juin, ça signifie donc que ça sera à elle, sous la présidence ou durant la présidence allemande de l'Union européenne au deuxième semestre, de boucler le dossier, et c'est vrai que les bons liens traditionnels qu'entretient l'Allemagne avec ses pays peuvent faciliter sans doute les choses, comme plus globalement le fait que ce soit sous la présidence allemande que ce dossier soit bouclé, ça facilite sans doute les choses. Cette semaine, une politologue allemande disait « Gott sei Dank, Dieu merci, c'est l'Allemagne et c'est Angela Merkel qui devra trouver la solution à ce délicat dossier et sa longévité politique, son expérience des difficiles négociations européennes ou non européennes ne peuvent constituer qu'un atout sans doute, qu'il s'agisse de négocier avec ces quatre pays qu'avec les autres pays membres de l'Union européenne.
Christian Lequel, vous avez évoqué les Britanniques tout à l'heure, je voudrais qu'on fasse un petit peu de politique fiction. Est-ce que ce plan aurait été possible si les Britanniques étaient restés dans l'Union européenne? L'idée d'une dette commune européenne, ça aurait évidemment fait frémir les Britanniques, en tout cas a priori, qu'en pensez-vous?
Oui, avec un gouvernement conservateur tel que ceux que l'on a eu depuis 2010, sans aucun doute, bien sûr. Et là, ça aurait été un poids politique, bien sûr, beaucoup plus important, qui aurait renforcé le camp dit des frugaux. Oui, non, ça, c'est, certainement.
Est-ce que
je pense que les Britanniques n'auraient pas soutenu l'idée d'un plan de relance avec une dette, sauf si eux avaient éventuellement pu en bénéficier, parce qu'ils sont aussi très touchés par le Covid et par la crise. Mais le principe même, quand même, à mon avis, aurait profondément déplu aux conservateurs britanniques.
Et oui. Puis ils auraient évidemment renforcé le camp des frugaux, et soudain, il y aurait eu environ 100 millions d'Européens, en tout cas, avec leur gouvernement, qui auraient été peut-être contre ce plan. Ça aurait quand même changé beaucoup le rapport de force. Est-ce que ce plan, finalement, c'est le premier effet, le post-Brexit?
Peut-être, on peut dire ça aussi avec les Pays-Bas qui se positionnent un peu dans les positions qui avaient été traditionnellement d'ailleurs tenues par la Grande-Bretagne en matière financière. Hein. Mais effectivement, c'est une manifestation du rapport de force post-Brexit. Oui.
Ça en a partie. Autre élément important, c'est pas lié directement à ce plan de relance et c'est pas lié à l'initiative européenne, mais c'est lié à la crise du coronavirus. Ça en a partie. Il y a eu le dogme du déficit budgétaire public qui ne devait pas dépasser les 3% du PIB. Alors, c'est presque passé inaperçu, mais ce dogme est tombé avec tous le soutien à l'économie qu'ont lancé les différents pays européens. Est-ce que ce dogme des 3% de déficit public lié au PIB, est-ce qu'il va se maintenir ou pas? Ou est-ce qu'il y a là aussi une évolution de la façon dont l'Union européenne entend gérer son économie, ses budgets?
C'est quand même difficile à dire, mais en question, certainement, ce dogme est tombé assez vite, c'est vrai. Quand même, à l'autre côté, on voit aussi que toutes les propositions sont toujours faites dans une manière où on dit que ça doit être temporairement, ça va être une dérogation. Donc, je pense aussi que ça ne va être pas le système qui on va garder dans l'éternité. Donc, c'est vrai que pour l'instant, il faut vraiment prendre beaucoup de dettes et ça va peser sur les économies dans les décades à venir. Ça va aussi changer le cadre des décisions politiques et aussi le cadre de cet pacte de stabilité. Mais quand même, c'est important de donner ce signe. Et peut-être si je peux retourner aussi à votre question d'avant, quelles sont les possibilités des quatre frugaux de peut-être dérailler aussi un peu, de changer encore le débat. Il faut quand même unanimité pour le processus, pour les propositions de la Commission européenne. Donc, on n'a pas cette unanimité. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est vrai, on ne va pas avoir un consensus maintenant en juin, peut-être pas en septembre, mais quand même, c'est important de discuter et d'avoir ce processus délibératif avec les promoteurs et les opposants. Mais il faut aussi regarder qu'est-ce qu'ils vont avoir peut-être en retour, par exemple, peut-être une discussion sur une repriorisation dans le budget de l'Union européenne. avoir peut-être aussi le débat sur le financement de l'agriculture commun, aussi la conditionnalité avec le semestre européen. Donc là, je pense qu'il y a encore quand même des questions assez difficiles où on n'a pas encore des réponses maintenant.
Alors c'est vrai que c'est le début d'un long processus, il va falloir que les 27 se mettent d'accord, après il va falloir que le Parlement européen vote, et puis que d'une manière ou d'une autre, ce plan soit admis, ratifié par les 27 pays, et donc les parlements nationaux. Donc c'est le début d'un long processus, et c'est un peu contradictoire, parce qu'il faut aller assez vite pour sauver l'économie européenne qui est en grand péril, et en même temps il y a ce processus assez long qui se met en place. Alors Mikhaïla Weigl, je m'adresse plutôt à vous en tant que qu'allemande, cette dette commune, eh bien, il va falloir qu'elle soit remboursée à un moment ou à un autre via le budget de la Commission européenne. Comment rembourser cette dette? Mais trois possibilités qui me viennent à l'esprit. Plus de contributions de la part des États au budget européen, moins de dépenses, c'est ce qu'évoquait à l'instant Sandrine Parti, avec peut-être une remise en cause de la politique agricole commune ou d'autres budgets, ou éventuellement des ressources propres. Quelle est l'idée qui paraît apparaît la plus crédible en Allemagne en ce moment?
Je pense que c'est un mélange des trois options. Mais effectivement, l'idée que tout n'est pas question de dépenses, de montants de dépenses, mais plutôt de bonne gestion, cette idée, elle revient en force, notamment quand on regarde la gestion de la crise sanitaire. Et là, c'est vrai, on a beau constater que, par exemple, la France et l'Allemagne ont le même montant des dépenses sanitaires, mais l'argent n'est pas dépensé de la même façon. Donc, je crois cette idée qu'après une phase de reconstruction, de redressement, il faudrait vraiment trouver les bonnes méthodes de gestion. Elle est très prédominante en Allemagne. Ceci n'exclut pas qu'on puisse s'orienter vers, effectivement, quelque chose comme un impôt européen. Mais pour cela, effectivement, je crois qu'il faut attendre aussi les échéances électorales, parce que pour l'instant, aucun dirigeant a le mandat des électeurs pour introduire cette méthode de remboursement.
Côté français, Christian Lequen, comment on envisage de rembourser cette dette? On n'en parle pas trop, hein. On sait simplement qu'elle commencera à être remboursée à partir de 2028 et jusqu'en 2058. C'est une dette qui sera remboursée pendant 30 ans. On rappelle que c'est évidemment un emprunt qui est lancé sur les marchés financiers et pas directement un financement, par exemple, de la Banque Centrale Européenne.
Du côté français, je crois que pour l'instant, on ne pense pas au remboursement et on ne pense plus à la question de l'équilibre des finances publiques. On est plutôt dans la logique de relance. Alors, il y a un argument qu'on entend notamment au ministère français de l'économie, qui est de dire c'est une erreur de vouloir à la fois faire de la relance tout en voulant maîtriser convenablement les finances publiques. Il faut faire l'un ou l'autre. Donc là, on est dans la relance, mais vous savez, on va entrer ensuite en campagne électorale pour la réélection du président de la République. Et alors là, je pense qu'on ne parlera pas de resserrage des budgets, parce qu'on ne peut pas gagner une élection en France si on parle trop de resserrage des budgets. Au contraire, en France, on gagne l'élection en disant que l'État dépense. Et ça me fait un peu peur, parce que j'ai le sentiment que là, alors qu'on avait quand même bien maîtrisé le déficit public depuis l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai peur qu'on soit reparti dans une spirale avec une forte augmentation à la fois de notre dette et de notre déficit.
Il y a un mot qu'on n'a pas encore employé jusqu'alors, c'est le mot fédéralisme. Et on a l'impression tout de même qu'avec cette initiative et ce plan européen, un emprunt et donc une dette commune, eh bien on vient faire un petit saut fédéraliste qui n'ose pas dire son nom, Mikhaïla Weigl. Est-ce qu'on en est conscient du côté allemand?
Non, j'avoue pour une fois que j'ai pas la réponse.
Alors, Pascal Thibault à Berlin, est-ce que vous avez la réponse que Mikhaïla Weigl n'a pas?
Bah, je ne sais pas si ici on est conscient de cette possibilité. Je crois qu'en tout cas, effectivement, elle existe dans la mesure où, effectivement, avec ce nouveau plan, on aura une Commission européenne qui disposera de moyens à sa disposition, comme ce n'a jamais été le cas dans le passé, que Ursula von der Leyen, après des débuts un petit peu difficiles, pourrait être, comme l'a écrit un quotidien cette semaine allemand, la présidente de la Commission la plus puissante depuis la création de l'institution. Il y a effectivement l'introduction de cette mutualisation différente des couronnes des eurobonds, mais qui malgré tout y ressemble. Le fait que on peut se demander si, malgré le côté exceptionnel de la chose actuellement, cela ne va pas être un processus, un moyen qui va gagner en importance et accroître encore un peu plus le poids des institutions européennes et du fédéralisme. Et puis on évoquait à l'instant le remboursement de la dette. S'il va de pair avec l'introduction de recettes propres pour les institutions européennes, ça serait également une nouveauté qui briserait le statu quo ante, c'est-à-dire le fait d'avoir uniquement des financements venant des États membres.
Christian Lequel, on dit toujours que l'Europe ne progresse que dans la crise. On a l'impression d'en avoir une nouvelle illustration en ce moment.
Oui, effectivement. Alors, que veut dire progresser? Est-ce que cela va mener à une réforme politique de l'Europe? Je note quand même que dans la conférence de presse qui a accompagné la présentation de l'initiative, Madame Merkel l'a évoqué. Elle a dit peut-être que nous devrons revoir les traités. Donc elle s'est avancée quand même politiquement. On sait que Emmanuel Macron, lui, est plutôt aussi sur cette ligne, c'est-à-dire que lui, il considère que tout ça doit mener à une sorte d'aggiornamento de l'Europe politique, mais en même temps, les forces politiques opposées à l'Europe restent très présentes partout, et je ne suis pas sûr que les gouvernants, quels qu'ils soient, aient véritablement une majorité pour avancer, car ça, c'est un point quand même qu'il ne faut pas oublier. On a des opinions publiques et l'euroscepticisme n'a pas diminué avec la crise du coronavirus.
Vous vouliez peut-être réagir sur ce sujet, Michaela Weigel, non?
Oui, alors effectivement, c'est important de noter qu'Angela Merkel a parlé de la possibilité de changer les traités, mais malgré tout, c'est quand même plutôt ce qu'elle laisse à ses successeurs ou sa successeur. Pourtant, on s'oriente plutôt vers un homme. Je crois que c'est très positif que pour une fois, on n'a pas l'impression que l'Allemagne ne gère que la routine et que l'Allemagne, qui souvent avait refusé d'avoir une vision de l'Europe, pour une fois, dans la bouche d'Angela Merkel, se projette vraiment dans l'avenir. Mais c'est très hypothétique et comme je disais, je crois qu'on aura notamment à cause du déficit démocratique qu'on pourrait reprocher à tout ce qui se passe, on aura, une fois que cette gestion de crise est terminée, vraiment besoin de s'assurer du soutien des électeurs dans toutes nos démocraties pour avancer davantage.
Christian Lequel, alors finalement, c'est vous le mot de la fin. On dit aussi que rien n'est possible sans une entente franco-allemande. Bah, là encore, c'est un petit peu la preuve, même si la France et l'Allemagne, c'est pas forcément complètement l'Europe et l'Union européenne.
Mais il est évident que les deux puissances en tant qu'État membre de l'Union européenne, lorsqu'elles sont prêtes à faire un compromis, car c'est de cela qu'il s'agit, cela facilite l'ensemble du processus. Si nous avions une vraie divergence franco-allemande sur la question du plan de relance, nous n'aurions pas ce plan de relance. Voilà. Et encore une fois, c'est pour ça que M. Macron a dû attendre. Il a dû attendre que l'Allemagne fasse un choix politique. Et le choix politique qui a été fait par Mme Merkel, c'est plutôt en faveur de cette... Enfin, c'est même en faveur complètement de cette relance européenne. Donc, avec cet appui franco-allemand, je crois que l'Europe a toutes les bases aujourd'hui pour pouvoir progresser.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ce qui s'est passé ces jours derniers, c'est aussi important que le lancement du marché intérieur ou le lancement de l'euro?
Non, parce que on est quand même là encore dans la gestion de crise. Quand vous parlez d'euro, de marché intérieur, vous parlez d'un pas positif vers la création d'une nouveauté, de quelque chose innovant. Là, on essaie quand même de trouver le meilleur plan, une fois de plus, pour colmater les brèches. Donc, c'est plutôt, on est plutôt dans le réactif que dans le proactif. Et c'est en ce sens que je ne ferai pas d'équivalent.
Merci, en tout cas, merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Carrefour de l'Europe avec Maria Afonso et Antoine Moutot du Courrier International. Réalisation Guillaume Munier. Des infos sur nos invités sur la page de l'émission. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe en podcast ou en balado-diffusion, comme on le dit si joliment au Québec, j'aime beaucoup, RFI.fr, rubrique podcast. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Lesesquelles, que vous soyez Paris, Berlin, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.